Merci Jean-Philippe. Nous allons maintenant aborder des questions et des réponses avec, si vous le voulez bien, la première question qui devra être adressée à notre invité, donc au chef de mission d'OIM en RDC. Oui, Benoît.
Merci pour la parole, Saint-Froyant Katumba. Pour les comptes de l'explorateur, Monsieur Jean-Philippe, pour ne pas te aller en profondeur, quel type de garde-fou qu'il faut mettre en sorte pour éviter les drames qui naissent en Afrique et éviter, ma foi, toutes les catastrophes que vous connaissez en RDC. Je dis je vous remercie aussi.
Merci. Alors, il faut une approche plurielle. Il faut tout d'abord permettre une migration légale et sûre, c'est-à-dire ouvrir la grande porte, notamment à des programmes de migration de travail qui permettent aux personnes qui désirent s'expatrier de le faire en toute sécurité. Donc c'est un appel aussi à ce que cette migration pour le travail, elle soit gérée. Il ne faut pas oublier que ces facteurs migratoires sont favorisés par une demande, notamment une demande pour des services. Ces services sont malheureusement, dans les pays industrialisés, très souvent dans le secteur informel des économies. Et donc, cette possibilité d'emploi dans le secteur informel va encourager les personnes à prendre des risques et à s'expatrier, très souvent de manière irrégulière, illégale, et se retrouvent des personnes qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles, pénibles. Vous avez tous et toutes certainement vu les reportages qui sont sortis de Libye, où on a des conditions dramatiques depuis de nombreuses années pour des migrants originaires d'Afrique subsaharienne qui sont donc dans ces centres de détention illégaux en Libye, et que l'OIM en ce moment est en train de rapatrier. Nous sommes en train de rapatrier à peu près 15 000 migrants en situation irrégulière qui sont en Libye et qui désirent ardemment rentrer au pays. Et nous travaillons aussi pour faire en sorte qu'il y ait une aide à la réintégration pour ces personnes. Pourquoi ? Parce que cette migration irrégulière, elle est coûteuse. Il faut payer des filières et donc les personnes, les familles vont généralement vendre les biens qu'ils ont pour pouvoir payer ces filières. Et donc le retour, surtout le retour en situation d'échec pour ces personnes est toujours, pour ces migrants, est toujours extrêmement difficile. Première chose. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que il y a aujourd'hui malheureusement un état socio-économique dans de nombreux pays qui pousse les gens à partir. Donc il faut offrir des alternatives aussi économiques viables dans les pays d'origine. Alors, pour information, cette année, ici à Kinshasa, on a mis en place un projet pilote de création d'emplois pour les jeunes. Quand les personnes ont des perspectives socio-économiques plus positives au pays, ça réduit bien entendu les désirs d'expatriation, notamment en utilisant des filières de migration irrégulière. Et puis, troisième facteur, eh bien, il faut aussi reconnaître que cette migration, si elle est accompagnée, vraiment est un bénéfice non seulement pour les individus, pour les familles, mais aussi pour les pays, les sociétés, que ce soit les pays d'origine, de transit ou de destination. Et là, c'est plutôt un dialogue qui doit se poursuivre au niveau des États concernés. Je vous rappelle que l'an dernier, au mois de septembre, à New York, il y a eu donc un accord, des discussions sur ce qu'on appelle le compact Global Migration Compact, le compact migratoire pour des migrations sûres et ordonnées. Ce dialogue, ces discussions vont se poursuivre l'an prochain pour faire en sorte qu'il y ait cette coopération au niveau international pour que ces migrations soient sûres et ordonnées. Merci.
Nous allons maintenant nous rendre à Goma pour prendre une question, s'il vous plaît.
Merci Florence, c'est Darrel Maurice, Track Magazine. Et je reviens à mon colonel. Où en est-on avec les investigations sur l'attaque faite à Beni, là, à Simoliki? On se raconte qu'il y a déjà la présence des Guatemaltèques au camp qu'a occupé les Tanzaniens.
Oui, merci pour votre question. Il faut dire que après cette attaque, et comme je l'ai dit à l'entame du test que j'ai présenté, aussitôt après cette attaque, la première mission consistait à stabiliser cette région où les forces spéciales, je l'ai dit dans le test, les forces spéciales ont été déployées. Vous étiez là et le renforcement du dispositif sur place est en train d'être fait. Et donc, pour revenir à votre question qui consiste à savoir où est-ce qu'on en est pour les enquêtes, je n'ai pas d'éléments à vous fournir là-dessus. C'est une commission qui travaille et qui, le moment venu, peut-être je dis peut-être, fera le point de sa mission. Merci.
Je vais apporter un complément suite à la visite de M. Lacroix. Donc, comme je l'ai annoncé en début de cette conférence de presse, il était venu suite à l'incident de Semouliki en qualifiant cet incident d'incident très grave et en indiquant qu'il y aura des enquêtes en étroite collaboration avec les pays contributeurs à la brigade d'intervention. Ces enquêtes seront conduites avec les moyens qu'il faudra. Monsieur Lacroix a également insisté sur le fait qu'il fallait éviter de tirer des conclusions trop rapides, mais en même temps agir rapidement et regarder tous les éléments qui ont contribué à créer les conditions pour cet événement. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de cette enquête. On revient ici à Kinshasa avec une question ici sur la gauche. Patient.
Vous le savez peut-être, RFI et Reuters viennent de publier une enquête sur la base des éléments de preuves contenus dans le dossier d'instruction et pourtant jusqu'ici écarté de procès de Kananga, comme du rapport du comité d'enquête de l'ONU. Et elle demande que les agents de l'État ont organisé la mission des experts. Alors la question, est-ce que la MONUSCO tient à ce que toutes les preuves contenues dans le dossier d'instruction, y compris celles relatives à des agents de l'État, soient exploitées? Patient Ligodi, RFI.
Merci. Alors tout d'abord, dans cette affaire, je tiens à rappeler et à répéter que notre seul objectif est que la justice soit rendue pour nos experts et leurs 4 accompagnants congolais. Concernant le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies, il montre qu'une implication des autorités n'a été ni prouvée ni exclue. Des enquêtes additionnelles, y compris celles menées actuellement par les Américains et les Suédois, devront apporter davantage de précisions sur ce dossier. En outre, comme vous le savez, le secrétaire général des Nations Unies a nommé le procureur Robert Petit et 4 experts techniques afin de soutenir l'enquête nationale en cours. Il est prévu que Robert Petit rende compte régulièrement des avancées de l'enquête au secrétaire général ainsi que du niveau de coopération fourni par les autorités congolaises. Ce travail d'enquête étant en cours, nous n'avons aucun commentaire additionnel à faire. Et je le répète encore, notre seule préoccupation est que justice soit faite, quel que soit l'auteur des meurtres commis. Je vous remercie. On repasse à une question ici sur la droite. Oui, monsieur.
Oui, merci, madame Florence. Je suis Séraphin Kéremaï, de l'Agence congolaise de presse. C'est à propos de l'accident de Semouliki. Vous parlez toujours de présumé ADF. Ça signifie que depuis presque 7 ans, pendant lesquels la MONUSCO travaille sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, vous n'êtes pas encore parvenu, avec les moyens dont vous disposez, à identifier réellement tous ceux qui attaquent Beni à plusieurs occasions et qui viennent de commettre justement ce meurtre et ce Semouliki.
Donc votre question est pourquoi nous continuons à les qualifier de présumés ADF. Nous continuons à les qualifier de présumés ADF, car comme vous le savez, il y a énormément de groupes armés qui opèrent sur le territoire de la RDC, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Et il n'est pas toujours évident de savoir qui fait quoi. Pour nous, notre mandat est clair, nous devons neutraliser tous les groupes armés, quelle que soit l'appellation de ces groupes armés qui sèment la terreur, qui oppriment les populations, qui pillent les ressources de la RDC. Et j'ai envie de dire qu'après cette attaque odieuse, et c'était aussi le sens de la visite de M. Lacroix, donc j'ai envie de dire que les Nations Unies et la MONUSCO sont presque galvanisées par cette attaque et sont engagés plus que jamais à poursuivre leur travail auprès des populations congolaises, évidemment en collaboration avec les autorités congolaises, afin de neutraliser ces groupes armés, une fois encore, quelle que soit l'origine de ces groupes armés, et afin de pouvoir permettre aux populations congolaises de vivre enfin en paix, une paix amplement méritée. On va prendre une question ici sur la droite. Oui, monsieur, le micro est derrière vous.
Merci, Madame Florence. Nikezo Mouzani, du site d'information africeco.ch. Madame, j'aimerais mieux avoir une réponse qui a une précision scientifique et une exactitude mathématique au sujet de l'auto-évaluation de votre résolution 2348. Nous sommes à la fin de l'année. Dans 3 mois encore, cette résolution va atteindre le mois de mars. Si vous pouvez vous faire une auto-évaluation, êtes-vous satisfaite que vous avez été écoutée? Parce que le peuple congolais qui est proche des journalistes que nous sommes, crie chaque jour SOS au secours, ça ne va pas. Votre évaluation, vous-même, est-ce que cette résolution 2348, selon vous, vous avez été écoutée ici en République démocratique du Congo, il y a des avancées?
Alors, comme vous l'indiquez vous-même, la résolution 2348 expire le 31, tout comme notre mandat le 31 mars 2018. Donc, sur un an, il reste encore 3 mois. Donc, je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour faire une évaluation. En revanche, je peux dire que, donc, vous le savez, nous avons deux volets principaux guidés par cette résolution. Le premier est celui de la protection des civils. Je viens d'en parler. Nous avons eu des échecs, c'est vrai, mais nous avons aussi eu des succès. Nous sommes parvenus à repousser des groupes armés. Je vous renvoie à ce qui s'est passé à Uvira en septembre dernier. Et nous sommes toujours sur le terrain pour protéger les populations civiles. Nous sommes, on l'a dit aussi, déployés à la fois avec des personnels civils et militaires dans le Kassai. Ça, c'est pour le volet de la protection des civils. En ce qui concerne l'application, le deuxième volet, qui est le soutien à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et le processus électoral, nous avons maintenant un calendrier électoral. Nous avons manifesté auprès des autorités congolaises notre soutien à soutenir la mise en œuvre de ce calendrier et nous veillons à ce que ce calendrier soit respecté pour que les Congolaises et les Congolais puissent choisir librement les institutions et les hommes qui les représentent. Je vous remercie pour votre question et nous passons maintenant à Goma pour une autre question.
Bon.
On ne vous entend pas à Goma. On continue à ne pas vous entendre. Il y a un problème à Goma. Je vous demande de régler votre problème de micro et on revient ici à Kinshasa pour une question là-bas au fond. Oui.
Merci Florence. La question reviendrait au colonel porte-parole militaire, mais toutefois vous pouvez la prendre. C'est juste pour savoir, après l'attaque de Semili qui a coûté 14 décès, qu'est-ce qui reste de la crédibilité de cette brigade d'intervention qui était tant redoutée dans notre pays à leur arrivée? Sinon, les mythes à sauter, bon, qu'est-ce qu'on peut encore attendre? Est-ce que la population continue à faire confiance en cette brigade tant professionnelle, mais désillusionnée par les amateurs? Merci.
Le colonel Hag va répondre, mais je peux dire que, comme vous l'avez vu, la MONUSCO a immédiatement réagi suite à cette attaque. Les plus hautes autorités des Nations Unies sont venues ici au Congo afin à la fois de rendre hommage aux 14 casques bleus décédés et aussi de rendre visite aux 44 blessés, donc pour montrer notre détermination. Il y a eu des rencontres avec les autorités congolaises afin de renforcer la coopération avec les autorités congolaises, car je vous le rappelle, la sécurité du territoire est une responsabilité première des autorités congolaises. Donc il y a une forte réaction de la part de la MONUSCO, mais le colonel Hague, qui est à Goma, va me compléter.
Merci pour cette question. Je dois vous dire que c'est vrai, au plan tactique, nos soldats sur cette base de Semoliki se sont battus avec courage et héroïsme pour défendre leur position. Et il est hors de question que l'on ait l'impression, comme vous le dites, que est-ce que les gens, les populations peuvent continuer à croire. Il faut vraiment que les populations croient, parce que pour mémoire, il existe des bases qui, peut-être, lorsqu'on vous dit que les bases vont être fermées, vous voyez la réaction des populations, et je ne vais pas tellement m'attarder là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que à Simoulki aujourd'hui, la position de cette base de la MONUSCO est renforcée. Le dispositif sécuritaire est renforcé. Et les patrouilles sont intensifiées dans toute la zone, ce qui me pousse à vous dire, à confirmer que, effectivement, les populations de cette localité se retrouvent bien dans leur peau et peuvent poursuivre leurs activités comme il se doit. Je vais m'en arrêter là. Merci.
Oui, nous revenons ici à Kinshasa où nous avons une question ici sur la gauche, madame. Merci.
Question. Nous avons assisté la semaine dernière à un premier groupe de 5 ressortissants congolais qui sont donc revenus ici à Kinshasa. Comme vous le savez peut-être, depuis le 22 novembre de cette année, l'ambassadeur de la RDC en Libye a été rappelé suite aux diffusions des reportages sur CNN sur les ventes de migrants dans ce qu'on appelait les marcheuses esclaves. Nos équipes sur place en Libye font tout pour identifier les ressortissants congolais qui sont actuellement dans des situations extrêmement difficiles en Libye. Les informations que l'on a pour l'instant font état de 40 de ressortissants congolais actuellement toujours en Libye. Nous faisons tout pour les rapatrier. Ceci dit, il est important de souligner que ce rapatriement ne doit se faire que sur une base volontaire. Il faut donc que l'on puisse avoir accès à ces migrants qui sont dans des geôles, qui sont parfois des geôles clandestines, pour pouvoir déjà les identifier et obtenir leur assentiment pour un retour. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces migrants sont souvent sans document de voyage, n'ont pas de passeport. Donc il y a un travail que l'on sommes en train de faire avec les autorités consulaires ici en RDC pour faire en sorte que ces ressortissants, qu'ils soient congolais ou autres, puissent obtenir des documents, passeports ou autres, qui leur permettront de quitter le pays. Comme je l'ai dit auparavant, nous sommes engagés actuellement dans une opération de rapatriement de grande envergure. Nous sommes sur le point d'assister à peu près 15 000 ressortissants, essentiellement originaires d'Afrique subsaharienne, à rentrer au pays, avec un travail aussi de réintégration donc, dans les pays d'origine. Mais je tiens, ceci dit, à préciser en fait que les ressortissants congolais en Libye, à notre connaissance, ne sont pas nombreux par rapport aux ressortissants venant du Sénégal, du Ghana, du Nigeria ou d'autres régions d'Afrique subsaharienne. Pour la deuxième partie de votre question, c'est un projet pilote qui était financé par le secrétariat d'État à la migration suisse qui consistait justement à faire en sorte que des jeunes congolais, congolaises, ici à Kinshasa, puissent créer des petites entreprises qui leur permettront par la suite, on l'espère, de créer des emplois autour de ces initiatives. Mais il est important de souligner que c'était un projet pilote. On espère que d'autres partenaires vont se joindre à cet effort. Il est bien évident que dans une capitale comme Kinshasa, avec 12 et quelques millions de personnes, on ne pourra pas, grâce à ces projets, s'adresser au problème du chômage endémique sur Kinshasa. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de créer une initiative, une impulsion qui va encourager aussi, on espère, d'autres jeunes Congolaises et Congolais à envisager les activités commerciales, artisanales qui seront à même de les nourrir, de nourrir leur famille et puis de créer des emplois autour de ces initiatives. Merci.
Nous repartons à Goma en espérant que cette fois-ci, le micro va marcher.
Merci. Moi, c'est Viviane Zabarinda pour l'écho de la radio-télévision belge francophone TBF. Ma question, peut-être c'est adressé à Madame Marshall. C'est par rapport effectivement à la décision du gouvernement rwandais sur les sorts des Rwandais ayant encore les statuts des réfugiés qui sont en RDC, après qu'un ultimatum soit certainement déclaré par le gouvernement rwandais, qu'en 2018, il n'y aura plus reconnaissance des Rwandais encore à l'étranger. On ne sait pas, du côté beaucoup plus des agences, des systèmes des Nations Unies chargés de la question des réfugiés, même particulièrement la MONUSCO qui se charge des questions, des redditions, des FDLR à travers DDR. Alors, peut-on savoir le mécanisme que vous êtes en train de mettre en place pour peut-être des éventuelles négociations par rapport à la question avec l'État rwandais? Merci.
Je vous remercie pour votre question et je vais passer la parole à notre collègue du HCR, Simon, qui est présent dans cette salle et qui va pouvoir vous répondre.
Merci. Il s'agit de la question de cessation de statut des réfugiés, qui est une décision prise entre le gouvernement du pays d'origine, le HCR et les gouvernements des pays d'accueil. Pour le cas de la RDC, le gouvernement congolais n'est pas encore en mesure d'appliquer la clause de cessation du statut de réfugié au 31 décembre 2017. Voilà, c'est ça la situation. Cela veut dire que les réfugiés rwandais qui sont en République démocratique du Congo ne vont pas perdre leur statut au 31 décembre 2017.
Merci pour cette explication. Nous revenons ici avec une question ici sur ma droite.
Oui, monsieur Doumou, vous avez parlé dans l'affaire Thomas Lubanga. Il faut 10 millions de dollars pour les réparations collectives. Alors, à qui les fonds seraient destinés? Comment va se passer la distribution de ce fonds à ces nombreuses victimes? Et puis, qui va gérer les fonds? Merci beaucoup.
Nous passons la parole à notre collègue qui représente la Cour pénale internationale ici à Kinshasa.
Merci beaucoup pour cette question. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette décision qui a été rendue, c'est que la mise en œuvre de ces décisions sera faite par le fonds en profit des victimes. Comme vous le savez très bien, Thomas Lubanga est indigent. Donc, les réparations collectives qui ont été accordées aux victimes dans cette affaire seront mises en œuvre par le fonds profit des victimes. C'est la raison pour laquelle, dans la décision qui a été rendue, les juges ont demandé au fonds de voir dans quelle mesure ils pourraient faire des efforts supplémentaires pour ce qui est du montant alloué, justement en voyant comment on peut avoir un peu plus de donations. C'est aussi l'occasion d'en profiter pour dire aux médias qu'il est possible à travers vos réseaux des médias de pouvoir encourager les uns les autres à pouvoir contribuer au fonds profit des victimes, parce que les donations sont des donations volontaires qui sont faites par des États, par des individus, par autres, et c'est en fonction de ces donations que le fonds profit des victimes peut faire face aux réparations lorsque l'accusé est reconnu coupable et reconnu indigent. Tel est le cas de M. Thomas Lubanga.
Je reprends une question ici sur ma gauche.
Merci, Albert Romba, Numérica TV. 2014, deux brigades sont formées pour mettre hors d'état de nuire M23. Chose faite. La même brigade se déplace de Goma pour Beni, pour mettre hors d'état de nuire les ADEF. Chose faite. Et à la fin du début de 2015, le gouvernement se décide de faire cavalier seul. Donc, il n'y a plus de coalition entre les deux brigades. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de M. Lacroix, il a eu les assurances du gouvernement congolais que l'autre brigade congolaise sera déployée aussi dans ce secteur Benimbao, Similiki Nord et Sud?
Alors, vous y faites référence, Monsieur Lacroix, lors de sa visite ici en RDC, a rencontré des plus hautes autorités de l'État, y compris le président de la République. Et évidemment, la question de la neutralisation des groupes armés était à l'ordre du jour. Et Monsieur Lacroix a répété à la sortie de ces réunions que la sécurité du territoire congolais revenait en premier lieu aux autorités congolaises, mais qu'il était important aujourd'hui plus que jamais de travailler ensemble, que les Nations Unies et les forces armées de la République démocratique du Congo puissent travailler ensemble afin de neutraliser ces groupes armés. Pour l'instant, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Je vais prendre une question ici sur la droite, oui. Monsieur. Est-ce qu'on peut faire passer le micro un petit peu vite? Il nous reste 4 minutes. Ah, c'était pas pour vous, c'était pour le monsieur là-bas. Merci.
Florence Marsal, joyeux Noël et meilleurs vœux à toute l'équipe des Nations Unies. Nous sommes à la fin de l'année. La situation sécuritaire est resté relativement stable, c'est une belle phrase qu'on a apprise ici. Majorité et opposition sont divisées. Hier encore, il y a une marche qui devait être faite qui a été étouffée. La mission des bons offices, on en entend parler chaque fois ici, mais on ne voit pas trop les retombées, excusez-moi si je suis pessimiste. Est-ce qu'on peut dire que l'année 2017 n'a pas été très porteuse pour nous tous, la MONUSCO y compris?
L'année 2007 a été une année, vous avez raison, difficile. Nous avons vu dans ce pays une aggravation des crises, à la fois politiques, économiques, sécuritaires, humanitaires. Nous avons perdu des casques bleus. Nous avons des collègues experts des Nations Unies qui ont été assassinés. Des milliers de Congolais ont dû être déplacés en raison des conflits. D'autres Congolais, les mêmes, souffrent de malnutrition sévère. Donc c'est vrai que la situation est complexe actuellement. Mais il est vrai aussi que les Nations Unies, à la fois la MONUSCO et les agences fonds et programmes des Nations Unies, sont présents aux côtés des autorités congolaises et des populations congolaises, afin d'apporter, dans la limite de leurs ressources disponibles, tout le soutien et le réconfort possible qu'on puisse apporter aux populations congolaises. Nous sommes tous engagés pour la stabilisation, la paix dans ce pays et le développement de ce pays. Nous allons prendre une dernière question ici à Kinshasa. Oui, monsieur. Ici, devant vous. On fait vite. Il reste 2 minutes.
Merci, Florence, de la parole. Mesdames, oui, du journal Le Potentiel. Une petite préoccupation. Sur quelle note vous laissez les Congolais au regard de prérogatives qui vous ont été dévolues par la résolution 2348. Est-ce que les Congolais peuvent encore espérer en la MONUSCO?
Bien sûr.
Pour les lendemains meilleurs.
Bien sûr que les Congolais peuvent encore espérer en la MONUSCO. On l'a dit, qu'il s'agisse de la protection des civils, qu'il s'agisse de la mise en œuvre de l'accord. Comme vous le savez, conformément au calendrier publié par la CENI début novembre, la MONUSCO a présenté son plan de soutien logistique à la CENI le 30 novembre dernier. Donc nous sommes fermement décidés à soutenir ce calendrier électoral, à favoriser une transition apaisée, à permettre à ce que toutes les voix dans cette période de transition puissent s'exprimer. Et donc oui, les populations congolaises peuvent compter sur la MONUSCO en ce qui concerne le chemin vers des élections libres, apaisées et démocratiques. Et l'ensemble de la famille des Nations Unies est bien sûr, comme je l'ai dit, également déterminée à tout mettre en œuvre pour accompagner les Congolais. Voilà, c'est la fin de cette conférence de presse. Merci pour votre participation. Au nom du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Sidikou, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prochain rendez-vous le 10 janvier 2018. Merci à tous. Au revoir.